Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manon, pour l'invitation. Un peu moins merci de m'avoir placé juste après un orateur comme Benoît Friedman. Je risque de souffrir un petit peu de la comparaison, mais c'est pas très grave. Alors, Kelsen, Hans Kelsen, vous le savez tous, défend une conception pure de l'étude du droit, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire abstraction des données non juridiques, des données politiques, par exemple, pour étudier le droit. Mais Kelsen, je ne vous l'apprends pas non plus, avait également des opinions politiques, et il était même fortement engagé pour un certain nombre d'entre elles en faveur de la démocratie notamment, et de la paix mondiale, pour le dire vite. Alors bien sûr, il n'y a pas là la moindre contradiction comme ça d'emblée, puisque Kelsen n'a jamais nié qu'il existait des préférences politiques, des valeurs différentes, mais il a simplement plaidé pour que ses convictions ne faussent pas l'étude du droit et reprochait les auteurs qui présentaient leurs préférences comme le droit en vigueur. Dès lors, il est tentant, et un certain nombre d'auteurs l'ont fait, il est tentant de lui reprocher d'avoir lui-même commis l'erreur qu'il dénonçait et d'avoir inséré ses propres préférences politiques dans ses constructions théoriques ou dans ses descriptions du droit positif. Et ses écrits de droit international sont un terrain particulièrement fertile pour ce reproche, puisque le projet politique d'une société mondiale juridiquement organisée était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, pour lequel il s'est fortement engagé. Vous savez qu'il a notamment rédigé les statuts de ce qui est une organisation fédérale mondiale, etc., etc. Alors évidemment, Kelsen a pu très bien distinguer les deux, d'un côté ses affirmations de théorie du droit, ses descriptions du droit positif, et de l'autre l'énoncé de ses objectifs politiques. Mais, encore une fois, il est tentant de supposer que ses opinions politiques se sont infiltrées dans son étude du droit, et c'est la thèse que suggère de manière mesurée Jochen von Bergstorff dans sa thèse de doctorat, dont je vous ai donné la référence dans le document distribué. Et donc, en m'appuyant sur cet auteur, en m'en distinguant un peu parfois, je vais essayer d'analyser les rapports entre la théorie du droit de Kelsen et son projet cosmopolite, son projet politique. Et je vais faire ça sous un double aspect. D'abord, je vais regarder si Kelsen a mis sa théorie du droit au service de son projet politique. Et ensuite, je vais voir les éventuelles frictions entre ces deux préoccupations de l'auteur. Alors d'abord, est-ce qu'il a mis la théorie pure du droit au service de son projet politique ? La théorie pure du droit, elle a sans aucun doute un aspect constructif. Elle permet de concevoir un objet, de l'étudier selon une certaine méthode, mais elle a aussi, et peut-être surtout, un aspect négatif, destructeur. C'est un outil formidablement puissant pour démasquer les idéologies qui se cachent derrière les concepts utilisés par la doctrine. Ce qu'explique Jochen von Bergstorff, c'est que Kelsen se serait livré à une analyse sélective des travaux existants en droit international et qu'il aurait toujours débusqué, démasqué l'idéologie derrière les travaux de ses adversaires politiques, mais qu'il aurait systématiquement épargné ceux qui étaient d'accord avec lui d'un point de vue politique. Alors, pour commencer, il est certain que Kelsen s'est livré à une critique dévastatrice de ses adversaires politiques. Alors, je ne vais pas me lancer dans un rappel ou un exposé de la théorie du droit international de Kelsen, d'abord parce que vous la connaissez tous sans doute mieux que moi, ensuite parce que Charles Le Ben est dans la salle, donc je ne vais pas me risquer, je ne vais pas prendre de risques, mais simplement, vous savez que Kelsen a démontré que derrière un certain nombre de concepts utilisés par la doctrine, il y avait simplement une idéologie nationaliste et que c'était en particulier justement dans les travaux de droit international que la doctrine était très fortement idéologisée. Un élève de Kelsen, celui qui peut-être c'est le plus, enfin parmi les élèves qui sont restés fidèles à Kelsen, celui qui s'est le plus préoccupé du droit international, Joseph Kuntz, explique en 1923 que le droit international est vraiment en retard par rapport aux autres disciplines, c'est le dernier refuge du droit naturel, c'est le dernier domaine où les auteurs osent encore ouvertement se revendiquer juste naturaliste. Et donc, c'est un domaine où la critique de l'idéologie était, trouvait particulièrement sa place. Kelsen le dit aussi très clairement dans son ouvrage de 1920, Le problème de la souveraineté, qui est, je le rappelle, la première occurrence des termes théorie pure du droit qui apparaissent dans le sous-titre de ce livre. Et donc Kelsen a déshabillé, si je peux dire, un certain nombre de fondements classiques du droit international, au premier rang desquels la souveraineté, évidemment, la conception traditionnelle de la souveraineté de l'État, la perception de l'État comme une personne juridique, l'anthropomorphisme dont parlaient Georges Sell et Benoît Friedman, le dualisme de Triple dont on parlait ce matin, etc., etc. Je prends juste un exemple particulier. Le cœur du projet institutionnel de Kelsen pour l'organisation juridique du monde, c'est le rôle donné à une cour, à une juridiction. Or, et je cite Charles Le Bel, une telle juridiction ne peut voir le jour que si la communauté des États en est arrivée à un point où elle est prête à accepter la contrainte d'une telle juridiction obligatoire. Et donc Kelsen s'efforce, dans ses travaux juridiques, il s'efforce de priver les États des arguments pseudo-juridiques qu'ils invoquent, qu'ils pourraient invoquer pour échapper au règlement juridictionnel des conflits. En particulier, il s'efforce d'éradiquer la distinction entre litige juridique et litige politique. Ça va tomber ? Ça va tomber ? Je vous vois inquiet, non ? Ok. Poussez pas la caisse, ça va tomber. Donc, il s'emploie à éradiquer cette distinction et il explique que la théorie des questions politiques, en réalité, c'est simplement un argument qu'utilisent les États pour se soustraire, quand ils le souhaitent, à la compétence de la Cour, à la compétence de la juridiction. Donc, ici, comme ailleurs, Kelsen élimine des thèses d'apparence juridique, il démontre que ce sont en réalité des thèses politiques, mais il s'attaque à des thèses qui s'opposeraient à une plus grande intégration, à une plus grande juridicisation de la société mondiale. Comme dit von Bernstorff, Kelsen lève les barrières doctrinales qui pourraient exister pour le développement de son projet. Mais, néanmoins, à aucun moment, il ne présente ses objectifs politiques comme constituant le droit positif en vigueur ou comme étant une évolution qui serait juridiquement inévitable. Simplement, il démontre, sur le fondement de sa théorie pure du droit, qu'un système mondial juridiquement organisé est juridiquement possible. Il dit les thèses qui prétendent que c'est une impossibilité juridique ne sont en réalité que le masque de l'idéologie nationaliste. Donc sur ce point, on ne peut pas reprocher une contradiction à Hans Kelsen. En revanche, on pourrait lui reprocher une certaine partialité, et c'est ce que fait von Bernstorff, si Kelsen ne s'était occupé que des erreurs de raisonnement de ses adversaires politiques. Donc l'instrument critique de la théorie pure du droit là, conserverait sa cohérence, mais serait mis uniquement au service du projet politique. C'est ce que n'est pas loin d'affirmer von Bernstorff, qui pourrait avoir un nom plus facile à prononcer, puisque je le cite beaucoup bien. Alors, la critique juridique des alliés politiques. Alors, les auteurs hostiles à un développement important des institutions mondiales ne sont certainement pas les seuls à présenter leurs préférences politiques comme une description du droit. Et la plupart des discours contemporains sur le constitutionnalisme global se prêteraient très bien, je crois, à une critique kelsenienne, puisque certains auteurs de ce courant, alors qui est très divers, tendent à affirmer que l'identification d'une constitution mondiale ou du développement, de l'apparition d'une constitution mondiale aurait des effets juridiques. C'est-à-dire qu'introduire un concept doctrinal aurait pour effet de modifier le droit positif. Il s'agit là évidemment d'une violation des principes méthodologiques de Kelsen. Et un membre de ce qu'on peut appeler la troisième école de Vienne, si on dit que la première école de Vienne, c'est celle réunie autour de Kelsen, la deuxième autour de Robert Walter à Vienne, la troisième aujourd'hui autour de Matthias Jechtet à Fribourg, un membre de cette école a pu livrer une critique kelsenienne de ce courant doctrinal du constitutionnalisme global. Exemple. Pour quelle scène? Vous le savez, mais je le rappelle. Pour quelle scène? Les énoncés normatifs, les énoncés des normes permettent plusieurs interprétations et la démarche scientifique consiste à décrire les différentes interprétations dont sont susceptibles ces énoncés. Et donc, l'observateur ne saurait favoriser une interprétation au détriment des autres, dire que l'interprétation qui a ses préférences morales ou politiques est la seule interprétation possible des textes. Donc, la simple utilisation du vocabulaire constitutionnel, de constitution, constitutionnalisme, constitutionnalisation, ne permet pas d'exclure certaines interprétations au détriment des autres. Un système juridique ne peut pas être modifié simplement parce qu'on décide de l'appeler constitutionnel. Par ailleurs, les problèmes méthodologiques du constitutionnalisme global ne se cantonnent pas à cette question de l'interprétation. Il semble que certains de ces auteurs commettent ce qui est pour Kelsen le grand péché méthodologique, c'est ce qu'il appelle le syncrétisme des méthodes. Or, il n'est pas rare que ces auteurs contemporains naviguent entre la description, la prévision et la prescription. L'étanchéité n'est pas toujours bien conservée entre le droit tel qu'il est, le droit tel qu'il sera et le droit tel qu'il devrait être. Et donc les théories contemporaines du constitutionnalisme global présentent sans doute des faiblesses méthodologiques, une perméabilité à l'idéologie, aussi bien intentionnée soit-elle, qui se prête très bien à la critique kelsénienne. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Kelsen les aurait critiqués? Puisque, encore une fois, elle présente un terrain propice à sa critique de l'idéologie. Alors, si ces thèses doctrinales sont très développées aujourd'hui, elles ne sont pas complètement nouvelles, et le cosmopolitisme juridique, même s'il n'était pas majoritaire durant la vie de Kelsen, existait, on vient de le voir avec Benoît Friedman. Georges Sell, par exemple, insistait beaucoup sur l'existence d'une société et donc d'une constitution mondiale, si j'ai bien compris. Donc sa vision politique était proche de celle de Kelsen, mais son épistémologie du droit s'en distinguait fortement. Critique de la souveraineté, oui, là, ils sont d'accord. Démarche sociologique, non. Pour Kelsen, ça, c'est encore une fois le syncrétisme honni. Or, Kelsen, vous le savez sans doute, a écrit une longue critique juridique des travaux de Georges Sell. Et pour étayer sa thèse d'un usage sélectif de sa théorie pure du droit, von Bernstorff explique que Kelsen n'a jamais publié cette critique de Sell, et donc il dit que ça démontre bien que Kelsen n'a finalement utilisé cet instrument critique que contre ses adversaires politiques. Alors bien sûr, c'est vrai, mais c'est une remarque qui est peut-être un peu courte pour pouvoir suggérer que Kelsen aurait systématiquement épargné les thèses doctrinales qui allaient dans le bon sens politique selon lui, et c'est d'abord un peu court parce que c'est une supposition parfaitement gratuite. On ne sait pas si Kelsen a renoncé à publier ce travail pour ne pas gêner le projet politique qu'il avait en commun avec Georges Sell. D'ailleurs, dans la biographie de Kelsen, rédigée, peut-être Kelsen lui a un peu tenu la plume, mais dans la biographie de Rudolf Metal, l'auteur donne une autre explication. Il explique que Kelsen avait envoyé son texte à Georges Sell et qu'il attendait sa réponse avant de publier son travail. Et comme la réponse n'est jamais venue, eh bien, il n'a jamais publié le texte. Voilà. Alors, on peut quand même remarquer que, bien sûr, Kelsen n'avait pas forcément ce genre de précaution avec tous les auteurs qu'il critiquait. On n'est pas obligé non plus de croire sur parole le biographe officiel de Kelsen. Mais bon, toujours est-il qu'on peut quand même en déduire que le simple fait que Kelsen n'ait pas publié sa critique de Georges Sell ne permet pas de conclure qu'il a utilisé sa théorie pure du droit uniquement pour affronter ses adversaires politiques. Donc peut-être qu'il aurait critiqué aujourd'hui les partisans du constitutionnalisme global. J'en viens au deuxième point de mon intervention, qui est celui des frictions éventuelles entre la théorie du droit de Kelsen et son projet politique. Alors, l'objectif scientifique d'une théorie pure du droit et le projet politique d'une société mondiale plus intégrée, juridiquement organisée, sont parfaitement compatibles, évidemment, dès lors qu'ils se situent sur des plans différents. Mais il peut y avoir deux types de contacts nocifs entre les deux. On peut se demander d'abord si le projet politique gêne la théorie du droit. Von Bernstorff, toujours lui, laisse parfois entendre que le projet d'une société mondiale institutionnalisée est en réalité sous-jacent à l'ensemble de la théorie pure du droit et que, de manière cachée ou inconsciente, les idées politiques de Kelsen influencent ses thèses juridiques. Alors là encore, je ne vais pas passer au crible l'ensemble des écrits de droit international de Kelsen, mais je vais prendre juste un exemple qui démontre, il me semble, de manière extrêmement claire, comment Kelsen, justement, distingue l'analyse juridique de ses préférences politiques et comment, plutôt que d'insérer clandestinement ses préférences politiques dans ses développements juridiques, eh bien, il donne à voir, en réalité, quelles sont les questions auxquelles la théorie du droit ne permet pas de répondre et quelles sont les questions qui dépendent des préférences politiques de chacun. La théorie pure du droit, vous le savez tous, s'efforce d'examiner le droit indépendamment de la morale et des faits. Donc la validité des normes juridiques ne peut venir ni des faits ni de la morale. Une norme est valide en raison d'une autre norme juridique, ce qui conduit au bout de la chaîne à supposer valide une première norme qu'on décide de considérer comme valide et qui nous permet de considérer un système normatif comme le droit en vigueur. Cette supposition de validité, c'est ce que Kelsen appelle la norme fondamentale, vous le savez sans doute. Par ailleurs, Kelsen considère qu'une science a besoin de considérer son objet de manière unifiée, systémique, pour pouvoir l'étudier, et donc il défend une conception moniste du droit. Donc le droit international, les droits nationaux sont des sous-ensembles d'un unique système. Donc la question qui se pose évidemment, c'est de savoir quel est le point de départ de cette construction. Est-ce que l'on part du droit national ou est-ce que l'on part du droit international ? On pourrait s'attendre à ce qu'un auteur qui est engagé pour le développement du droit international déclare sans embâge la supériorité du droit international et dise on part du droit international. Et c'est à partir du droit international que l'on peut considérer valides les droits nationaux. Eh bien non, Kelsen, au contraire, affirme clairement que la théorie du droit ne permet pas d'indiquer l'emplacement de la norme fondamentale. La théorie du droit n'indique pas le point de départ. La science du droit n'est pas capable d'identifier un système juridique valide. La science du droit décide de traiter un certain ensemble de normes comme le droit en vigueur. Et donc ce sont des critères externes à la théorie du droit qui vont guider l'observateur lorsqu'il construit, étudie son système. Et donc comme cette norme fondamentale, cette supposition de validité n'est pas dictée par la théorie du droit, eh bien elle peut parfaitement être dictée par un motif politique. Et c'est bien ce qu'explique Kelsen dans son ouvrage de 1920 que j'ai déjà cité. Il dit « La théorie pure du droit ne permet pas de trancher entre la primauté du droit national et la primauté du droit international. On peut choisir de partir du droit international ou bien du droit national. C'est ce qu'on appelle parfois la Wahlhypothese, l'hypothèse du choix, qu'on ferait mieux d'appeler, il me semble, la Hypothesenwahl, le choix d'hypothèse, puisqu'il s'agit justement de choisir quelle est l'hypothèse de départ, le point de référence dont on déduit la validité de tout le reste. Bien, et donc Kelsen explique le point de départ, il dépendra des préférences politiques de l'observateur. Si vous êtes un gros bourrin impérialiste, nationaliste, vous partez du droit national. Si vous êtes un pacifiste, vous partez du droit international, tout simplement. Donc bien sûr, vous voyez, il ne laisse guère de doute sur l'hypothèse, le point de départ qui a sa préférence, mais l'important c'est qu'il rend explicite, il me semble, le caractère politique de son choix. Donc il ne présente pas sa préférence politique comme une conclusion imposée par la théorie du droit. Et donc sa théorie du droit demeure ici imperméable à ses convictions politiques. Lorsqu'elle ne peut pas répondre à une question, lorsque la réponse est politique, eh bien elle le dit clairement. Von Bernstorff, j'y reviens, en convient, mais, et il n'a peut-être pas tort, il présente ses développements comme une stratégie rhétorique, en réalité, de Kelsen. Il dit, en fait, cela conduit à décrédibiliser la thèse de la primauté du droit nationale. Mais on pourrait répondre à ça que si tel avait été le but premier de Kelsen, bah, il aurait été sans doute plus efficace de présenter la primauté du droit international comme une nécessité scientifique, ce qu'ont fait des élèves de Kelsen, et pas les plus mauvais, qu'il s'agisse de Kunz, ou de Ferdows. Donc on peut se demander si la rigueur méthodologique de Kelsen ne constitue pas finalement un frein à la promotion de son projet politique, et c'est par là que je vais en terminer. La théorie du droit gêne-t-elle le projet politique? Pour von Bernstorff et d'autres, Kelsen, finalement, en considérant que la primauté du droit national est théoriquement possible, eh bien, il relativise la thèse de la primauté du droit international, et donc il se tire une balle dans la jambe, puisque la primauté du droit international, c'est quelque chose de crucial pour lutter contre la doctrine traditionnelle, souverainiste, statocentrée, si l'on peut dire. Martti Koskenniemi va dans le même sens. Il explique que présenter la primauté du droit international comme un simple choix arbitraire, eh bien, cela affaiblit Kelsen politiquement. Et donc, il a cette formule imagée que j'ai recopiée sur le document distribué. Il dit que le prix à payer par Kelsen pour critiquer la doctrine traditionnelle, eh bien, c'est tout simplement une émasculation de sa politique. On peut se demander, néanmoins, si ce n'est pas l'inverse qui est vrai. Alors je ne me risquerai pas à essayer de dire l'inverse de émasculation. Moi j'ai quelques... Oui, mais vous voyez, on peut se demander si ce n'est pas l'inverse qui est vrai. Il est permis de se demander si finalement la rigueur méthodologique de Kelsen n'a pas plutôt eu pour effet de renforcer son projet politique. En effet, est-ce que ces thèses militantes, ces thèses politiques aurait vraiment été plus fermement établi s'il avait présenté ses préférences politiques comme le droit en vigueur ou bien comme une évolution inéluctable du droit en vigueur. Rien, en réalité, rien n'est moins sûr. Von Bernstorff dit que la retenue que s'impose Kelsen l'empêche d'interpréter le droit de manière constructive pour le rendre conforme à ses idées politiques. Mais là encore, il n'est pas sûr qu'en présentant comme une vérité certaine des interprétations discutables, Kelsen aurait donné plus de poids à ses arguments, aurait donné plus de poids à son propos. Et je crois qu'au contraire, l'effort de rechercher les différentes interprétations possibles des textes en vigueur, confère davantage de force aux critiques qu'il peut formuler contre les autres. Et ce n'est sans doute pas un hasard si Kelsen rappelle... réitère ses thèses sur l'interprétation dans la préface de son commentaire de la Charte des Nations Unies. Donc je crois, et c'est ma conclusion en quelque sorte, je crois que Kelsen est un kamikaze. Kelsen est un kamikaze, c'est-à-dire qu'en se coupant les jambes, il casse, il brise celles de ses adversaires. Et il a sans doute bien plus apporté à son projet politique en critiquant les positions de ses adversaires qu'en développant une lecture constitutionnaliste du droit international. L'auteur qui abandonne cette rigueur méthodologique que s'impose Kelsen, l'auteur qui considère que la doctrine peut modifier le droit en le décrivant, il n'a pas grand-chose à opposer à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, à ceux qui ont des préférences politiques différentes des siennes. À la fin, il faut simplement dire on n'est pas d'accord politiquement, et puis on en reste là. Tandis qu'en se cantonnant dans ses écrits juridiques à démasquer les idéologies plutôt qui a y substitué les siennes, Kelsen rend son réquisitoire beaucoup plus puissant, puisque du coup, la destruction qu'il opère ne peut pas être écartée d'un revers de la main, simplement en disant « oui, mais on n'est pas d'accord politiquement ». Donc, autrement dit, si l'on peut aujourd'hui assez facilement construire des théories mondialistes, globales, politiquement motivées, sans trop s'encombrer de soucis méthodologiques, c'est peut-être grâce au sacrifice de Kelsen, puisque en maintenant une certaine étanchéité entre sa théorie du droit et son projet politique, il a fragilisé durablement les constructions doctrinales, classiques, souverainistes, nationalistes, et il a ouvert la voie aux auteurs qui se revendiquent aujourd'hui du constitutionnalisme global. Donc disons-lui merci, et je vous remercie aussi. Merci.